Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À l'ombre du festival, le podcast d'entretien cannois de Criticat. Aujourd'hui, on n'évoque pas un film en particulier, mais une sélection, la quinzaine des cinéastes. Et pour en parler, je suis avec Gabriela Trujillo, qui est membre du comité de sélection. Bonjour Gabriela.
Bonjour.
Alors, tu es écrivaine de cinéma, tu as d'ailleurs un livre qui sort à la fin de mois sur James Gray aux éditions Capricci. James Gray sous le signe de Saturne.
Absolument.
Voilà, donc grosse actualité pour toi en ce mois de mai. Et donc non, pour commencer, je voulais simplement t'interroger sur le processus de sélection. Je crois que c'est ta deuxième année dans le comité dirigé par Julien Régel. Et voilà, je voulais savoir, peut-être aussi savoir s'il y avait une évolution entre l'an dernier et cette année, que tu remarques peut-être dans la ligne éditoriale, dans les recherches que vous faites, les cinématographies que vous mettez en avant.
Alors la sélection, nous sommes un groupe, c'est chaque année les sélections reflètent deux choses, je pense l'état du cinéma du monde et aussi une forme de portrait collectif d'un comité, c'est-à-dire qu'on s'y reconnaît tous pour différentes raisons dans les films et c'est ce qui crée aussi cette richesse des échanges. Donc on reçoit énormément de films, on reçoit plus de 1700 longs métrages. On a reçu en tout cas cette année pour une sélection au final de 19 longs qui essayent de montrer deux choses, et ça c'est le très beau discours d'ouverture de Julien Régel, donc le délégué général, au moment de l'ouverture de la quinzaine cette année. Il a voulu rappeler aussi ce qu'il répond quand on lui demande justement s'il y a une ligne éditoriale ou quelle est la particularité de cette sélection qui fête cette année ses 57 ans. Donc nous sommes à la 57e édition d'une sélection qui a vu le jour après l'annulation du Festival de Cannes en 68, donc qui s'est tissé aussi avec une histoire, bien sûr, chapeautée en quelque sorte par la Société des réalisateurs et réalisatrices français. Et donc la quinzaine de cinéastes, elle a connu beaucoup d'évolutions. Et le but était non seulement de souligner la question de la prospection, de la recherche des œuvres de cinématographie moins connues, mais aussi de les porter à la connaissance du public et d'accompagner, en quelque sorte aussi, de permettre de donner une visibilité pour une diffusion comme une forme de justice envers les films, mais aussi envers le public. C'est-à-dire montrer des films de genres très différents. Cette année, on est extrêmement fiers d'avoir des films de genre, donc avec Dangerous Animals de Sean Byrne, un film australien de requins, ou d'avoir des comédies, d'avoir des horizons très très différents au niveau géographique comme au niveau des genres. Avec bien sûr toujours une attention assez prononcé pour les premiers deuxièmes films, souvent. Une attention aussi toute particulière aux cinéastes françaises, puisque c'est aussi ce qui permet de relancer un cercle vertueux en termes de distribution, de fréquentation aussi. Hein. C'est quand même le but, c'est de porter à la connaissance d'un grand nombre un cinéma de qualité, un cinéma exigeant. Et je pense que c'est un peu la vocation actuelle de la quinzaine.
Et à ce titre, je voulais te demander, du coup, peut-être pas parler d'un film, mais peut-être de deux ou trois films qui vraiment t'auraient marqué dans. Oui, il y a des gens qui passent, on est dans un lobby d'hôtel, mais. Et oui, pardon, donc j'avais envie de te poser la question de peut-être tes coups de cœur dans cette sélection. Voilà, si tu peux nous parler de deux ou trois films, peut-être que j'en aurais vu certains, peut-être pas tous. Et voilà, c'était aussi l'idée, je trouvais ça bien de faire parler un peu un membre du comité de sélection un peu en profondeur de ses choix, parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on entend une fois que les films sont sélectionnés, c'est pas forcément une parole à laquelle on a accès. Donc voilà, c'était un peu aussi l'idée de cette invitation.
Et merci d'ailleurs pour cette parole. C'est vrai que je ne parle que en mon nom, mais en tant que membre d'un collectif qui je peux le dire au nom de tous mes collègues que je salue, c'est qu'on aime beaucoup évidemment notre travail, on aime beaucoup le cinéma et on aime des cinémas très différents. Donc notre approche souvent elle se fait de manière complémentaire, elle ne se fait pas sans débat, sans discussion. Et je pense effectivement qu'on est sollicité pour chacun pour des raisons différentes, pour on va dire, pour des contextes différents dont on provient. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec les autres, avec comme perspective, cette question de la mise en scène, cet amour du cinéma et une cinéphilie qui nous réunit, qui est aussi vaste que possible. Donc parmi mes coups de cœur, le premier qui me vient à l'esprit, c'est un film canadien de Anne Aymon, qui s'appelle en anglais Peak Everything, et en français le titre était Amour Apocalypse. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Si, ouais, mais c'est le titre original, Amour Apocalypse, parce que c'est un film québécois.
Francophone à l'origine, ouais.
Donc un film sur, c'est plus ou moins une comédie romantique, éco-anxieuse, si on peut le dire comme ça, mais vas-y, je te laisse en parler un peu plus.
Alors c'est en effet un film, bon, en disant quelques mots sur le film, je vais aussi peut-être justifier ou clarifier pourquoi c'est le premier film qui m'est venu en tête lorsque tu m'as demandé un coup de cœur. Je pense que c'est d'une part important de parler de cette angoisse qui saisit toute une génération et même plusieurs générations, qui saisit au vu du changement climatique, au vu de la réalité climatique qu'est celle de notre époque. Je pense qu'il est important de pouvoir en parler et d'en parler sur ce ton-là. Je pense que faire d'un sujet comme l'éco-anxiété, l'angoisse même de la fin du monde due à une catastrophe, une hécatombe climatique, elle est d'autant plus impressionnante qu'elle vient d'un pays qui souffre directement de tous ces bouleversements en termes d'incendie, d'extrêmes, de températures extrêmes, et d'un pays qui s'est construit aussi en presque comme un refuge poétique au sein de ce qu'est actuellement aussi l'Amérique du Nord, comme les États-Unis de Donald Trump. Et donc ce havre poétique que constitue le Québec francophone, il s'ouvre à nous avec cette différence fondamentale qui est celle du rapport direct et douloureux qu'ils ont avec les éléments du point de vue météorologique. Je trouve que le personnage qui montre cette faille est un personnage qui parle aussi de notre époque, non seulement en termes de bouleversement climatique, mais aussi de bouleversement en termes de notre société. J'aime pas le mot sociétaux, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, on voit un personnage masculin faible, construit entièrement par la fantaisie d'une réalisatrice qui voulait donner à ce personnage cette puissance du faible, cette incroyable force qu'il a, tout en étant sur le point de basculer, de s'écrouler de peur face à tout ce qui arrive et qui provoque en lui, et c'est ça je pense le mouvement très beau et qui moi m'émeut profondément dans le film, ça provoque une force de vie extrêmement étonnante et je pense bienfaisante.
Oui, parce qu'il se trouve, bon, le film ne m'a pas totalement convaincu dans sa forme, mais c'est effectivement quand même un film assez singulier. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a comme ça un mouvement paradoxal où on dirait qu'en fait, plus ce qui se passe d'un point de vue climatique est grave, plus la situation amoureuse va se délier d'une certaine manière. Et les deux personnages vont se rapprocher. Donc, c'est l'histoire d'une rencontre au bout d'un téléphone. Ça commence comme ça, puisque le personnage principal appelle une ligne de service par rapport à une lampe de luminothérapie qu'il a achetée. Qu'il a acheté, et il tombe sur cette femme Tina, et voilà, de conversation en conversation, ils vont se rencontrer, et en fait leur rencontre va être prédestinée à ces bouleversements climatiques, et ça commence par exemple par c'est à cause d'une catastrophe qu'il entend au bout du téléphone, qui regarde l'adresse sur son objet pour aller la retrouver.
Qu'il décide d'aller sauver cette femme qui visiblement vient d'être victime d'un... On ne sait pas, ça pourrait être un météorite qui tombe, une immense tempête. On est dans un monde imaginaire, mais étrangement ressemblant au nôtre, où justement les catastrophes naturelles sont imminentes et de plus en plus récurrentes. Donc c'est en effet aussi un film qui parle, comme tu l'as dit, non seulement des angoisses, mais des manières dont les angoisses sont récupérées aussi par un système qui en fait un produit. C'est-à-dire on achète la solution à est-ce que acheter une lampe de luminothérapie pour aller mieux ne fait pas que renvoyer le problème plus loin. Donc le film montre aussi l'industrie du bien-être, et d'ailleurs le film est ponctué de voix d'une thérapie, comme il existe maintenant des applications du genre Petit Bambou, etc., une application de relaxation.
Oui, il est assez ambigu là-dessus, parce que effectivement on ne sait pas à quel point le film est satirique parfois ou non, parce qu'il y a effectivement ces moments où on entend de la méditation, presque de la sophrologie, comme ça, avec une voix un peu...
Très suggestive.
Ouais, très, très exagérément apaisante. Et il se trouve que, je peux le révéler sans trop en dire, le générique de fin est bercé par un nouvel extrait de relaxation qui semble s'adresser directement au spectateur en lui disant voilà, d'écouter son souffle. Et c'était assez étrange, parce que d'un coup j'avais l'impression que ça devenait complètement premier degré, et je pense que ça allait aussi, et c'est vrai que le film est un peu sur un fil entre ce premier degré de la méditation est important, et le second degré que tu évoques avec voilà, cette idée de tout monétiser un peu le bien-être aujourd'hui.
Moi, je pense que le film, c'est intéressant d'avoir cette impression, en effet, par rapport au générique de fin ou par rapport à ces applications qui prônent le bien-être, ou qui voudraient aussi porter à chacun une forme de parenthèse de relaxation pour se projeter dans un lieu heureux. Je pense que le générique de fin, le film ne surplombe pas son spectateur. Moi, je trouve que le film est très généreux. Il n'est pas dans une ironie mordante ou dans une critique. Je pense que le film ne juge pas, puisque ce qui me plaît dans ce film, c'est que chacun, un peu comme Renoir, chacun fait comme il peut. Et je trouve qu'il y a cette générosité qui est assez étonnante. Alors qu'on parle d'un sujet grave, qui est celui de la dépression, qui est celui de la solitude, qui est celui de l'anxiété, de l'inquiétude par rapport au monde que nous abordons et au monde que nous laisserons, et de notre rapport au vivant. Et je trouvais intéressant qu'on puisse justement être avec une pensée un peu complexe qui permet justement de prendre ces choses telles qu'elles sont, de voir que ça peut peut-être marcher chez certains et que ça peut pas marcher chez d'autres.
Mais c'est vrai qu'à ce titre, ce qu'il y a peut-être de plus, ce qui m'a beaucoup étonné dans le film, et notamment comment ça se termine sur cette partie du récit-là, même si on va pas le dévoiler, c'est aussi l'histoire du personnage avec son apprenti qui est beaucoup plus jeune que lui, et il y a quelque chose. Il va se nouer dès le début du film quelque chose de sexuel entre eux qui est assez, assez trouble, et ça, le film va jamais trancher exactement sur la moralité de ce qui s'est passé.
Ah, mais justement, moi je pense que c'est très intéressant, parce qu'il n'y a aucune moralité, il y a une vraie curiosité pour les personnages. Je ne suis pas d'accord sur la question qui se noue au début. Parce que effectivement, l'histoire de Romy, et la réalisatrice en a parlé de manière très étonnante lors de son échange avec le directeur de la Quinzaine. Elle parlait de la manière humoristique, presque caricaturale, mais quand même empreinte de beaucoup d'admiration et de tendresse pour une génération à laquelle elle n'appartient pas, une génération de jeunes filles qui revendiquent leurs désirs et qui font de désir de l'homme une sorte d'objet, et donc avec une forme de mépris aussi, ce qui accroît le côté innocent du personnage principal. Le personnage principal est personnage profondément gentil,
et qui se fait,
c'est extrêmement intéressant, parce que
c'est elle qui dirige la scène,
bien sûr, c'est elle qui dirige même, et je pense que,
et lui, je veux dire, là où c'est trouble, c'est que lui-même se pose des questions dont on se rend compte. Je trouve à la fin un moment où là, le film m'a surpris, parce que ce sujet-là revient alors qu'on l'avait un peu évincé, à un moment où on est passé complètement à autre chose.
Oui, mais je pense que ce n'est pas justement le c'est comment dire, je pense qu'on aurait tort de partir sur cette piste parce que c'est aussi un personnage de jeune fille profondément, moi je le trouvais antipathique au début, et de voir comment la réalisatrice essayait de le concevoir, c'est-à-dire comme une figure de pure énergie, d'expérimentation, une jeunesse qui travaille mal parce qu'elle n'a pas envie de travailler, elle a envie d'autre chose, et le patron fait partie de ce système qu'elle refuse. Et donc, en jouant avec lui, il n'y a aucun sentiment là-dedans, et lui, il est troublé, évidemment, sexuellement. Mais très vite, justement, lorsqu'il tombe amoureux d'une autre femme, il met les choses à sa place, et l'amour lui permet aussi de mettre. Bah, à sa place aussi la question du travail, tout simplement, et de l'attention, puisqu'il a un très beau travail, il tient un chenil, donc c'est l'attention au chien. Et ça, c'est une autre dimension pour laquelle j'aime ce film. Et je pense que on peut attirer l'attention aussi par rapport à des publics qui s'intéressent à la cause animale, comment la nature en général, et les animaux, et les chiens en particulier, traversent aussi ce film de manière extrêmement énergique et bienveillante. Et c'est ça, je crois, qui me plaît dans le film, c'est que on a aussi besoin de rire, on a besoin d'histoires d'amour comme celle qui est décrite, parce que c'est une très belle histoire d'amour entre deux personnes un peu perdues dans un monde qui s'écroule. Et effectivement, on est dans l'évidence. Et c'est ça aussi le geste de fin de ce générique dont tu parlais. Je pense qu'il y a une conviction que oui, on va mourir. Oui, le monde va très mal, et de pire en pire, parfois, on se dit. Mais entre aujourd'hui et le moment où le monde va terminer, du fait de notre propre irresponsabilité plutôt, eh bien, il y a chaque jour de vie qu'on a. Et le film veut, dans une allure aussi extrêmement feel good, et je pense que c'est très réussi. La mise en scène, je la trouve assez complexe, assez intéressante, avec un rythme qui est fou, qui est le rythme justement de cet élan amoureux qui est décrit. Et parce que justement, entre aujourd'hui et le jour où le monde se termine pour chacun et chacune, eh bien, il y a l'amour. Il y a la joie, il y a le rire. Et le film nous invite à chacune de ces choses-là.
Merci Gabriella. Et donc peut-être pour évoquer un autre film, je crois que tu avais envie de parler d'un film qui était vraiment très différent et qu'on n'a pas encore vu nous, mais qu'on attend beaucoup.
Mais je pense que justement pour le contrepoint, pour montrer aussi la richesse de la sélection, le fait que un film qui peut sembler léger mais qui aborde les thèmes graves a aussi son pendant, je pense, dans la sélection, c'est le film de Nadav Lapid, Yes, son titre pour l'instant, et qui invite aussi, je pense, le public cannois et le public en général à une forme de pensée plus complexe, c'est-à-dire à notre époque, on est en 2025, que fait-on d'un film israélien? Je pense que on est tous dans le monde du cinéma assez conscients du fait que ce n'est pas parce qu'on montre un film israélien qu'on va soutenir des décisions d'un gouvernement et que le fait de qu'on ne soutient pas justement un gouvernement génocidaire et que que les artistes au sein de ces pays montre, et c'est ce que fait Nadav Lapid avec ce film, montre aussi la folie et la souffrance des populations israéliennes à travers une histoire qui pourrait être celle d'un livre de Scott Fitzgerald, c'est-à-dire de deux personnes qui sont l'incarnation même de l'hédonisme. Et donc de deux personnes complètement insouciantes qui refusent de voir ce qui arrive dans leur pays, mais qui, malgré eux, sont traversées par la guerre, par la violence de ce que leur impose leur propre gouvernement et permet justement de réfléchir avec une sorte de résistance intérieure, là par l'absurde, puisque le film se construit sur ce mode-là, mais une forme de résistance intérieure par l'art. Et je pense que la folie qui est représentée dans ce film, elle est extrêmement importante pour qu'on continue à réfléchir à la fois à ce que peut le cinéma dans un pays et pour des artistes qui, et c'est pas nouveau, ça ne date pas de ce film, qui désapprouve justement ce que fait le gouvernement actuellement.
Merci, je ne peux pas rebondir parce que je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai hâte de le voir. Il passe le dernier jour
C'est un film
du
absolument
festival.
brillant, d'une énergie folle, et je pense que le voir et ouvrir justement nos perceptions en cette période qui pousse souvent à des réflexions un peu hâtives, à des conclusions, à des stigmates, je pense que c'est quand même un film nécessaire, oui.
Et enfin, je voulais aussi t'interroger en tant que simple festivalière, puisque tu es là quand même depuis une semaine. Je ne sais pas si tu as pu voir d'autres films et s'il y a un film d'une autre sélection dont tu aimerais parler.
Alors, oui, j'ai pu autant que possible voir quelques films des autres sélections. Donc oui, j'ai pu voir des films qui sont en sélection officielle, à la Semaine de la Critique. Et surtout, j'ai pu aussi revenir à un lieu que je chéris profondément au sein du Festival de Cannes, qui est Cannes Classique, avec toujours une très belle sélection. Et j'ai pu voir un film dont j'ignorais même l'existence, un film qui s'appelle The Girls, les filles, d'une réalisatrice sri-lankaise qui s'appelle Sumitra Périès, un film de 1978, donc une restauration, une belle restauration autour d'un objet profondément émouvant, l'histoire de deux sœurs qui, voilà, qui doivent affronter un contexte politique agité, une jeunesse qui se cherche, des conditions sociales extrêmement difficiles pour une famille et évidemment leurs conditions de femme, mais leurs conditions justement doublement réprimées par la société, pour le fait d'être pauvre et par la question du déshonneur qui plane sur l'une d'entre elles. Donc l'impossibilité de l'amour, l'impossibilité même de la joie, donc c'est un mélodrame extrêmement émouvant, parfois un peu fragile, mais fait avec un soin et comment dire, une élégance très étonnante, alors qu'on a des... On a recours à voilà, des zooms extrêmement prononcés, comme dans le cinéma des années 70, avec parfois la narration est interrompue par une série d'arrêts sur images. Donc des formes de syncopes comme ça dans le récit qui sont assez étonnants. Et voir, et ça me plaît aussi d'entendre enfin, de découvrir qu'il nous reste encore dans les archives mondiales cinématographiques encore des réalisatrices à découvrir.
Merci beaucoup, Gabriella.
Merci à toi.